Il est 12h à Kinshasa.
Radio Kapi. Oh, Kapi.
Le journal Belinda Bosuma.
À la une, cette plainte des opérateurs économiques de Mbujimayi. Depuis bientôt 2 mois, leurs marchandises restent bloquées à Lubumbashi alors qu'elles devaient être acheminées à Mweneditu. La SNCC justifie ce retard par le vol des fils caténaires, ce qui empêche le fonctionnement de la locomotive. Des centaines d'enfants souffrent de malnutrition. Des femmes obligées de parcourir des kilomètres pour la consultation prénatale. Cela se passe dans le site des déplacés de Roé, territoire de Djougou en Ituri. Constat de la société civile locale, elle interpelle le gouvernement. Et puis, c'est Julien Paluku Kaungia est notre invité ce midi. Le ministre de l'Industrie et ancien gouverneur du Nord qui vous dit connaître bien la problématique sécuritaire dans l'Est du pays. Il revient ici sur la mission du Premier ministre à Beni et parle de l'insécurité qui gangrène cette région. Madame, Messieurs, bonjour. D'abord cette nouvelle, sauf imprévu, c'est ce mercredi que la dépouille mortelle de Gabriel Kyungwa Kumwanza arrive à Lubumbashi dans le Haut-Katanga en provenance de Luanda en Angola. Information livrée au public par le ministre provincial de l'Intérieur par intérim. C'était à l'issue du Conseil provincial de sécurité tenu hier sous la présidence du gouverneur du Haut-Katanga. À cette occasion, Jacques Yabula a annoncé l'arrivée du chef de l'État ce jeudi dans la capitale du Cuivre pour rendre hommage à l'illustre disparu. Notons que Antoine Gabriel Kyungwa Kumwanza est mort le samedi dernier en Angola où il était évacué pour des soins appropriés. Il était le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga et président du conseil d'administration de la SNCC, Société nationale de chemin de fer du Congo. Je vous le disais en titre, au Kasaï oriental, les opérateurs économiques de Mbujimayi se plaignent du retard enregistré dans la livraison de leurs marchandises en provenance de Lubumbashi vers Mweneditu par la Société nationale des chemins de fer du Congo, SNCC. Ils déplorent le fait que depuis bientôt 2 mois, leurs marchandises chargées dans les wagons n'ont toujours pas été acheminées à la gare ferroviaire de Mweneditu. Conséquence, quelques produits dont le maïs a augmenté de prix suite à la rareté de cette denrée sur le marché. Le bureau de la représentation de la SNCC à Mbujimayi parle des perturbations causées par le vol des fils caténaires entre Kwatebala, Tenke et Chilongo dans la province du Lualaba. D'autres explications avec Esther Ndalafina.
Cette situation est ressentie au niveau de grands marchés où l'on ne trouve plus des gros camions contenant des marchandises en train d'être déchargés pour entreposer dans les dépôts. Les opérateurs économiques se plaignent suite au retard enregistré dans la livraison de leurs marchandises en provenance de Lubumbashi vers la gare ferroviaire de Mweneditu. Explication de Myriam Mujinga.
Nous sommes inquiets, le blocage c'est à quel niveau. Nous attendons toujours notre souhait qu'on puisse nous faire parvenir toutes nos marchandises. Ça a beaucoup traîné, ça fait beaucoup de mois, mais ça n'arrive jamais.
Contactez Justin Bouilly, directeur représentant de la SNCC Mbujimayi, lie ce retard au vol des fils caténaires entre Kwatebala, Tenke et Chilongo qui a empêché le fonctionnement des locomotives électriques.
Il y a eu accumulation de charges au niveau des Tenke. Nous sommes allés jusqu'à plus ou moins 3500 tonnes. Les dirigeants de la SNCC ont tout mis en œuvre depuis hier. Les circulations ont été rétablies. Les charges sont descendues ce matin à 442 tonnes.
Signalons qu'il y a près de 5 mois que la SNCC avait demandé aux opérateurs économiques de lui faire confiance en déposant leurs marchandises à la gare de Lubumbashi pour être acheminées dans les délais vers Mweneditu. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Kapi.
Ici à Kinshasa, depuis hier, des petites et moyennes entreprises de la ville avec un potentiel de croissance apprennent durant 3 jours à être plus compétitives en termes de qualité, de prix et d'innovation. C'est à l'initiative de l'OPEC, Office de promotion des petites et moyennes entreprises congolaises, sous tutelle du ministère de l'Entrepreneuriat. La finalité est de permettre aux PME congolaises de bénéficier aussi des avantages comparatifs et préférentiels que certains pays mettent à disposition des acteurs du secteur de l'entrepreneuriat. Explication Billy Van Lutumba.
Au nombre des facilités et opportunités offertes au niveau international et sur le territoire national aux acteurs engagés dans l'entrepreneuriat, l'OPEC cite l'AGOA, une loi commerciale des États-Unis avec but d'aider les pays de l'Afrique subsaharienne à accroître leur accès au marché américain sans taxes pour une amélioration de son commerce. D'où ces 3 jours de préparation des petites et moyennes entreprises de Kinshasa. Ezekiel Bidoya, DG de l'OPEC.
Au niveau ministériel, nous avons un programme national de développement de l'entrepreneuriat au Congo et dans ce programme programme, il y a le volet des capacitations qui est dévolu à l'OPEC. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous avons mis en place ce programme pour permettre à ce que nos PME puissent devenir compétitives et être à même de pouvoir saisir toutes ces opportunités.
Pour le ministre congolais de l'entrepreneuriat, les micro, petites et moyennes entreprises de la RDC ne doivent plus faire face à un accès limité aux finances, aux technologies et aux marchés. Eustache Mouanzi.
Le programme national de développement de l'entrepreneuriat au Congo, PRONADEC, marque une nouvelle ère dans le développement de l'entrepreneuriat et l'appui du secteur des PME, car il donne espoir et contient des initiatives et des réformes courageuses.
À travers la promotion des PME, le gouvernement entend aussi lutter par cette voie contre le chômage pour que la RDC soit un État véritablement fort et prospère.
Autre nouvelle, quelques jours nous séparent de l'organisation de l'examen d'État édition 2021-2022 au Maniema. Il s'observe que la plupart des candidats finalistes de la ville de Kindu n'ont pas encore payé les frais de participation qui s'élèvent à 40 000 francs congolais. L'inspecteur principal provincial Maniema 1 invite les candidats concernés à s'acquitter de ces frais pour éviter d'être traqués au niveau du centre le jour de l'examen. Jean-Marie Moyessi a saisi l'opportunité pour annoncé déjà l'opération de déploiement des malles contenant des items de l'examen dans les différents centres. L'inspecteur principal provincial Maniema 1 le dit au micro de Florence Kizalunga.
Nous avons commencé depuis mardi. Aujourd'hui, là, nous déployons tous ceux qui doivent se déplacer loin de la ville de Kindu. Nous ne resterons qu'avec les centres de Kindu et Nyoka plus Kataku. Je confirme que le 30, si le Congo reste Congo, un pays, donc il y aura effectivement examen dans tous les 36 centres que compte notre province éducationnelle. Je commence par les chefs de centre. Nous les avons encore rappelés à l'ordre. Nous avons fait ce qu'on appelle en langage militaire la veillée d'armes. Nous avons répété avec eux et je crois que tout le monde fera le travail tel que se recommandé. Aux parents, je suis passé à la banque vérifier. Pour la ville de Kindu, beaucoup d'élèves n'ont pas encore versé les frais. Nous leur donnons l'occasion d'ici jeudi de continuer à verser l'argent à la banque parce qu'au niveau du centre, il risque d'être traqué et ça risque de poser des problèmes inutiles. Aux autorités autres, c'est d'accompagner les membres de commission d'examen afin que tout se passe conformément aux normes.
Sachez aussi que la prochaine rentrée scolaire est fixée au lundi 4 octobre 2021 à 7h30 sur toute l'étendue du pays. C'est le secrétaire général intérimaire à l'enseignement primaire, secondaire et technique qui a publié ce calendrier hier et cela dans le strict respect des mesures barrières conformément au protocole de la lutte contre le coronavirus en milieu scolaire, indique le secrétaire général intérimaire. Ceci est contenu dans une correspondance adressée à tous les gouverneurs des provinces. Direction l'Ituri. Une centaine d'enfants souffrent de malnutrition aiguë dans le site des déplacés de Roé, en territoire de Djougou. Constat fait hier par une équipe des membres de la société civile locale, c'était lors d'une rencontre d'évaluation des besoins de ces familles qui ont fui les atrocités de la Codeco dans la région. Selon cette structure, ces vulnérables dépourvus de tout n'ont pas accès aux soins médicaux, ce qui constitue un sérieux problème pour les femmes enceintes. Elle appelle à une intervention urgente du gouvernement et des humanitaires pour éviter le pire. Le récit de Martial Kizabiamungu.
La plupart de ces personnes sont des femmes et des enfants. Selon la société civile locale qui a échangé avec les comités de ces déplacés, les conditions de vie de ces familles en détresse sont déplorables. Suite à une mauvaise alimentation, des centaines d'enfants souffrent de la malnutrition. Des femmes sont obligées de parcourir plusieurs kilomètres pour la consultation prénatale avec tous les risques liés à la présence des miliciens de la Codeco en errance dans la région. Charité Banza, président de la société civile de
Le niveau de la vie de la population déplacée, ça ne vaut pas. Ces enfants qui sont malnutris, il a fallu maintenant quelqu'un pour la prise en charge.
Les médecins chefs des zones de santé de Drodro, les docteurs Jean-Claude Douchi, demandent aux enfants malnutris et aux femmes enceintes de se diriger dans des structures proches où leur prise en charge sera assurée.
Les femmes enceintes, nous avons une aire de santé qui est à 2 km de là. Il y a celles qui sont dans les besoins, celles se rendre dans ce centre de santé de Blukwa État.
Notons que le site de Ro, les plus grands dans la région, est composé à ce jour d'environ 27 000 personnes déplacées venues de plusieurs localités de la région. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
santé au Nord Kivu. 153 nouveaux cas positifs au coronavirus ont été enregistrés la semaine passée dans l'antenne de la division provinciale de la santé de Butembo. Guy Makelele, coordonnateur intérimaire qui a livré ces chiffres à Radio Kapi, souligne que parmi ces cas, on note 29 décès. Plus de détails avec Florida Kahambu.
D'après les coordonnateurs intérimaires de l'antenne de la division provinciale de la santé de Butembo, ces 153 nouveaux cas positifs sont ressortis des 442 échantillons prélevés du 16 au 22 août dernier. La zone de santé de Beni, qui a enregistré plus de cas, a notifié 49 nouveaux cas positifs, dont 12 décès. Dans les territoires de Beni, 3 zones de santé ont été touchées, notamment la zone de santé de Kiondo avec 9 cas, Vuovi 13 cas, dont un décès, et Oicha 8 cas, dont un décès communautaire. Guy Makelele ajoute que dans les territoires des Lubero, la zone de santé de Moussienene compte 8 nouveaux cas, dont un décès, Masereka 7 cas, dont 4 décès, et celle des Lubero 1 cas. La ville de Butembo, elle, par contre, a enregistré 24 cas en zone de santé de Katoa et 32 dans celle de Butembo. Notons que le nombre de décès continue de monter progressivement. L'antenne de la division provinciale de la santé de Butembo a notifié 29 décès du 16 au 22 août contre 22 décès durant la semaine précédente. Butembo, Florida Kahambu, Radio Kapi.
Les députés provinciaux du Nord Kivu veulent voir l'état de siège réqualifié en état d'urgence sécuritaire. D'après ces élus, c'est par souci d'efficacité. Ils estiment qu'avec l'état de siège, les autorités militaires sont partagées entre la gestion des questions sociales, économiques et militaires, alors qu'ils devraient se concentrer sur les opérations militaires. C'est pourquoi, disent-ils, l'état d'urgence serait mieux approprié. Ils l'ont dit hier au Premier ministre Jean-Michel Samalukonde lors de son séjour à Beni. Robert Seninga, président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, s'explique au micro d'André Kitenge.
Nous avons émis le vœu de voir recadrer l'état de siège. Recadrer dans quel sens? Dans le sens où on peut orienter l'état de siège dans la zone la plus meurtrière, c'est-à-dire la zone de Beni et le territoire de Beni, si pas décréter l'état d'urgence sécuritaire, ce qui permettra à l'autorité militaire de faire des opérations et laisser le gouvernement faire les projets de développement. Parce que pour nous, on a chargé l'autorité. Il avait la seule mission de faire les opérations militaires, mais lorsque sur le de siège, il doit faire maintenant et les opérations militaires, et l'administration, et le développement, et le social. Donc, on voit que c'est encombrant. Mais le chef du gouvernement nous a dit qu'ils ont déjà pris un programme pour évaluer avec les députés nationaux du Nord Kivu et de l'Ituri, avec la commission défense et sécurité, pour voir comment on peut aller de l'avant. Parce que la mission principale, c'est de sécuriser la population et leur bien, et que nous attendons tous à bras ouverts. Nous disons qu'il faut recadrer les choses pour permettre qu'il y ait efficacité sur les actions et qu'il y ait des résultats tant escomptés le plus rapidement possible.
Restons au Nord Kivu pour signaler que le gouverneur de province vient d'interdire aux administrateurs des territoires ainsi qu'aux ONG de s'immiscer dans la gestion des conflits de pouvoir coutumiers en lieu et place des structures légales et compétentes. Décision contenue dans un message officiel du 24 août signé par le vice-gouverneur du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Jean Romuald et Kukalipopo. Plus de détails avec Sifa Maguru.
Cette correspondance du gouverneur évoque des rapports lui parvenus faisant état de l'immission de certains administrateurs des territoires et ONG dans la gestion des conflits du pouvoir coutumier en lieu et place des comités de conciliation et règlement des conflits coutumiers CCRCC. Tout en mettant ces derniers en garde, le gouverneur déclare nul et de nul effet toute décision déjà prise par eux. Une mesure saluée par les députés provinciaux élus de Lubero, Jean-Paul Lumbulumbu, qui dit avoir saisi l'autorité provinciale pour ce problème.
Je suis heureux aujourd'hui et je félicite le gouverneur militaire pour ça. Des instructions claires viennent d'être données à tous les administrateurs de territoires en province du Nord Kivu. Il leur est interdit strictement de s'immiscer dans les dossiers à caractère coutumier. Parce que cette mission est dévolue par la loi au CRCC et nous encourageons les CRCC à être actifs parce que nous pensons qu'ils sont les seuls à maîtriser nos coutumes, nos us, nos pratiques et ils sont les seuls à être compétents de régler ces questions-là. Donc je suis particulièrement satisfait.
Goma, Sifa Maguru, Radio Kapi.
Dans l'actualité, notez aussi que le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme est en visite de travail depuis hier à Kalemie. Objectif, sensibiliser les autorités provinciales et gouvernementales, la société civile ainsi que les leaders communautaires sur le discours de haine et la justice transitionnelle. Abdulaziz Tioy a rencontré la présidente de l'Assemblée provinciale du Tanganyika qui a renouvelé son engagement à accompagner la MONUSCO dans sa lutte contre le discours de haine.
Actualité internationale.
Nous sommes au Tchad. À la mort de l'ancien homme fort du Tchad, Hissène Habré, le collectif des victimes de son régime s'est réuni dans la capitale N'Djamena afin de faire pression sur l'Union africaine pour leur indemnisation. Hissène Habré était incarcéré au Sénégal en vertu de sa condamnation le 30 mai 2016 à la prison à vie à l'issue d'un procès sans précédent à Dakar. Il avait été déclaré coupable de crimes contre l'humanité, viol, exécution, esclavage et enlèvement. Une commission d'enquête tchadienne a chiffré à 40 000 morts, le nombre des victimes de la répression sous le régime Habré. Il devrait verser 33 000 dollars à chaque victime. Afghanistan, les talibans demeurent intraitables face à l'évacuation de l'aéroport de Kaboul. Les nouveaux maîtres de l'Afghanistan ont réitéré hier leur refus de reporter le retrait des forces américaines le 31 août. Et selon leur porte-parole, seuls les étrangers seront autorisés à quitter le pays. Les civils craignent désormais le pire.
L'invité.
Comme promis, nous recevons le ministre de l'Industrie, ancien gouverneur du Nord Kivu et natif de la région, Julien Paluku Kaungia, dit connaître bien la problématique sécuritaire dans l'est du pays. Il fait partie de la délégation qui accompagne le premier ministre dans sa mission à Beni. Avec lui, nous revenons sur la mission elle-même, mais aussi sur cette insécurité qui gangrène la région. Il s'entretient avec André Kitenge.
Mais Julien Paluku Kaungia, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes parmi les membres du gouvernement qui accompagnent le Premier ministre à Beni. Peut-on savoir en quoi consiste concrètement cette visite?
C'est une visite que le chef de l'État a voulu parce que lui-même a été sur le terrain, à Bunia et au Nord Kivu. Mais lorsque le dossier a été analysé au Conseil des ministres, le président de la République a estimé qu'il était important que le chef du gouvernement qui gère au quotidien la République vienne se rendre également compte de ce qui se passe. Parce que vous savez, au-delà des rapports que nous lisons dans nos bureaux, ces rapports ne reflètent peut-être pas nécessairement ou ne suscitent pas l'attention qu'il faut pour qu'il pousse à la prise de décision. Voilà pourquoi le Premier ministre est arrivé à Bunia. Je rappelle que ça fait plus de 10 ans que la ville de Bunia n'a jamais accueilli un Premier ministre. Ça fait plus de 5-6 ans que la ville de Beni n'a jamais vu un premier ministre qui y passe la nuit, parce que ça fait peur à tout le monde, mais lui a préféré passer la nuit pour qu'il raconte les différentes couches. Il a été à Oicha, parler aux différentes couches, à la société civile, aux opérateurs économiques, pour comprendre la problématique dans sa profondeur et peut-être demain les guider à pouvoir imaginer une thérapeutique appropriée à ce qu'il aura vécu lui-même, au-delà de ce qu'il lit dans les rapports quotidiens.
Vous arrivez à une période de l'état de siège, un état de siège vraiment critiqué par une certaine classe politique, mais aussi certaines organisations de la société civile qui estiment qu'il faut carrément abandonner cet état de siège qui ne produit pas assez de résultats escomptés. Qu'en dites-vous?
Les critiques, à mon avis, sont normales. Elles reflètent les niveaux de l'impatience de la population à voir finalement la paix revenir dans cette partie de la République. Vous savez que ça fait pratiquement depuis 2010, 11 ans, mais depuis 2014, ça fait 7 ans qu'il y a des tueries dans cette région. Eh bien, les gens veulent que la paix revienne. Lorsque l'état de siège était décrété, c'était pour rencontrer effectivement ces attentes-là de la population depuis une dizaine d'années. Mais je dois rappeler que nous ne sommes qu'à 3 mois et que donc, il est important que la population comprenne que ce que nous avons attendu pendant 7 ans, pendant 10 ans, il est quand même difficile de demander que cela soit résolu dans les petits 3 mois que nous venons d'avoir à l'issue de la proclamation de l'état de siège. Donc l'appel que j'ai fait à tous les acteurs, qu'ils soient politiques, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient autres, c'est de soutenir cette grande stratégie qu'a eu le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à rencontrer ce que la population de Beni, ce que la population du Nord Kivu, ce que la population de l'Ituri veut. Et ce qu'elle veut, c'est la paix. Si nous entrons dans des débats, dans des querelles, dans des critiques, nous risquons de distraire celui qui veut effectivement venir à bout de cette grande problématique. Il est important que tous nous l'accompagnions, que tous nous nous associons. Le Premier ministre, lorsqu'il vient s'installer ici pendant 2 ou 3 jours, c'est pour qu'à rentrer à Kinshasa, il sache quel levier faut-il faire bouger pour que la paix revienne finalement dans cette partie. Donc, l'appel que j'ai fait et au mouvement citoyen, et à la société civile, et aux opérateurs économiques, et à toute la population du Nord Kivu, de l'Ituri, c'est de soutenir cet état de siège. Tous regardons dans la même direction, Mais ça ne nous empêche pas de lever la voix lorsque nous estimons qu'il y a quelque chose qui est de nature à ne pas nous ramener à atteindre notre objectif.
Ne pensez-vous pas que ceux-là qui critiquent cet état de siège ont raison, parce que les tueries continuent en dépit de cet état de siège? La criminalité se porte bien toujours dans la ville de Béni. Quelle lecture faites-vous?
Bon, moi je pense que je pourrais me prévaloir d'être l'un des Congolais à faire une lecture un peu objective de ce qui se passe à l'Est ici. Je connais ce qu'a été cette province du Nord-Kivu en 2006, en 2007, avec tout ce que nous avons connu comme CNDP, ensuite les FDLR, les foisonnements des mouvements des groupes armés, les M23, les FDLR et les ZDF. Je peux quand même faire une lecture comparative, mais comme on ne compare pas les morts, ce n'est pas ici le lieu de les faire. Mais je pense que l'ennemi, lorsqu'il a appris qu'il y a un état de siège qui est décrété, il a aussi affûté ses armes. C'est ce que la population ne doit pas oublier. Et donc, nous devons savoir que l'agitation de l'ennemi a pour sens, a pour objectif de démontrer à l'opinion que rien n'est fait. Voilà pourquoi je fais un appel pour dire, malgré ce que les gens voient, les tueries, cela ne doit pas nous détourner de ce que nous voulons tous. Sinon, si nous abandonnons notre armée parce qu'il y a eu des tueries, parce qu'il y a eu une criminalité, alors comment nous allons ramener la paix ensemble?
Monsieur le ministre Julien Paluku, je vous remercie.
Merci.
Notre invité était avec André Kitenge. C'est la fin de ce journal coordonné par Élisée Chikotati, vous êtes mise en onde de Polydor Basunga et Belinda Bosuma vous l'a présenté. Vous pouvez réécouter ce journal sur notre site www.radiokapi.net. Merci de nous rester fidèles.